Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Laurent Hénard, président du mouvement radical, maire de Nancy et candidat au second tour des municipales comme chef de file de la liste Nancy Positive. Bonsoir. Laurent Hénard, la région Grand Est a été particulièrement exposée au Covid-19. Comment fait-on face à une crise pareille quand on gère une ville de plus de 100 000 habitants?
Essentiellement, en rassemblant les compétences, c'est-à-dire en travaillant bien sûr avec le préfet et les services de l'État, en utilisant tout le potentiel du CHU. On a la chance d'avoir des 10 premiers CHU de France. Et autour du CHU, on a mis en réseau les cliniques, les professionnels de santé dits libéraux, hein, les médecins et les professionnels de santé indépendants, et on a bâti une vraie chaîne d'action et d'initiatives. Parmi les initiatives, par exemple, le dépistage des résidents des maisons de retraite de la mairie de Nancy. On a été la première ville à faire un dépistage systématique des résidents et des agents. Parmi les initiatives aussi, la mise en place de centres de soins Covid-19 dans les gymnases de la ville qui avaient été aménagés pour cela. On a fait des opérations de prévention santé en même temps que la distribution des masques, parce qu'on sait que beaucoup de gens ne se sont pas soignés pendant la période de confinement. Et on a essayé le plus possible, en fait, d'anticiper et d'être le plus possible rapide dans la mise en œuvre, concret, opérationnel.
Alors, Laurent Hénard, vous avez été élu en 2014. J'imagine que ça a été l'une des périodes les plus difficiles de votre mandat.
Ah, c'est la crise la plus difficile que j'ai connue comme maire de Nancy. Alors, peu de temps après mon élection, comme tous les maires d'ailleurs, élus en 2014, on a eu, vous le savez, la vague des attentats qui sont arrivés dès janvier 2015. Ça a été quand même un premier choc. On a eu bien sûr des mouvements sociaux très durs, hein, loi El Khomri, Gilets jaunes, mouvement des retraites. Mais la crise du Covid-19, c'est évidemment la crise la plus difficile. D'abord parce que la vie des gens est exposée. Voilà, les gens ont peur de mourir, ou ils ont peur pour leurs parents, pour leurs grands-parents. Quand on visite un service de réanimation respiratoire, on n'en ressort pas complètement indemne, hein, c'est violent. Et puis on a les papas qui ne peuvent pas assister à la venue au monde de leur enfant. On a des proches qui ne peuvent pas être aux côtés de leurs parents dans leurs dernières heures de vie. Il y a même, vous le savez, pendant toute la durée du confinement, des obsèques qui étaient impossibles. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé les cimetières ouverts. Et puis on a tous ces commerçants, ces artisans, ces entrepreneurs qui ont peur pour leur affaire, quoi, qui ont peur pour leur activité, qui est souvent l'affaire de leur vie.
Et comme les autres maires, vous avez dû répondre à la crise sociale qui a suivi cette crise sanitaire. Quelles mesures avez-vous prises ?
Alors on a tout de suite réuni les associations du champ social pour téléphoner aux personnes âgées de plus de 70 ans de manière régulière. On a monté tout un réseau de bénévoles qui s'appelle la réserve civile et citoyenne, plusieurs centaines de citoyens bénévoles qui ont participé à ce travail de vigilance téléphonique, voire, si nécessaire, bien sûr, d'intervention à domicile. On a, avec le Réseau du Cœur, la Banque alimentaire, l'ensemble des associations humanitaires, on a organisé des distributions alimentaires dès le début du confinement. On a bien sûr fait le lien grâce à l'ordre des médecins pour les personnes qui n'avaient pas de médecin traitant. On a trouvé le moyen de les mettre en contact avec des médecins et de leur assurer un suivi médical. Le service d'urgence sociale du Centre communal d'action sociale a été ouvert pendant toute la durée du confinement. Il était ouvert tous les matins pendant toute la durée du confinement pour pouvoir donner des informations aux personnes en difficulté, pouvoir leur proposer une aide et pas les laisser seuls.
Nancy est une ville étudiante. Est-ce que vous avez réussi à répondre à leur détresse? Dans plusieurs villes de France, certains étudiants, notamment étrangers, avaient besoin d'une aide alimentaire.
Oui, grâce au CROUS et à l'Université de Lorraine, on a dès le début recensé les étudiants étrangers qui étaient encore à Nancy, qui n'étaient pas repartis après la fermeture du campus immédiatement dans leur pays ou même dans leur région d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi des difficultés sociales pour des étudiants qui sont des étudiants français, mais venant d'autres régions que le Grand Est. Et on a organisé avec le CROUS le dépannage alimentaire. On a aussi veillé à ce que, bien sûr, ils bénéficient d'une protection santé, hein, que ceux qui présentaient éventuellement des symptômes du Covid puissent être diagnostiqués, dépistés et, si nécessaire, bien sûr, soignés.
Laurent Hénard, des familles ont perdu du pouvoir d'achat parce que leurs enfants n'allaient plus à la cantine. Les tarifs de la cantine, c'est un sujet de cette campagne de second tour également ?
Alors, à Nancy, c'est un sujet qui, aux yeux des habitants, je pense, est réglé, puisque nous avons mis en place la cantine à 1 euro dès septembre 2014. Donc dès septembre 2014, voilà, on s'est dit que pour les familles les plus modestes, il fallait un tarif qui permette d'envoyer son enfant à la restauration scolaire tous les jours. C'est d'ailleurs parfois le seul repas équilibré que l'enfant peut avoir. Je rappelle que dans les cantines de Nancy, on est à 20% de bio et à 50% de produits locaux. Donc on a un bon taux de circuit court et de produits écologiquement raisonnés. On a bien sûr fait des livraisons de repas aux enfants qui bénéficiaient de la cantine à 1 euro, comme on l'a fait aux personnes âgées isolées, comme on l'a fait aux malades qui étaient mis en quarantaine chez eux et qui parfois ne pouvaient pas, alors soit physiquement, soit financièrement, faire leurs courses et se préparer à manger.
Laurent Hénard, qu'en est-il de la reprise de l'école à Nancy ? Est-ce qu'il va falloir, par exemple, des cours de remise à niveau pour tous les élèves qui, d'ici septembre, auront manqué 6 mois d'école ?
Alors, on a repris les cours dans les écoles de Nancy dès le 12 mai. En fait, 4 écoles étaient restées ouvertes pour accueillir les enfants des personnels prioritaires, notamment, bien sûr, les soignants. Donc là, les 44 écoles ont repris leur activité dès le 12 mai. Et le nombre d'enfants scolarisés monte progressivement. On était à 30%, pardon, des enfants le 12 mai. On est maintenant à près de 60% des enfants depuis le 2 juin. Donc on voit qu'il y a une montée des enfants scolarisés. Les professeurs ont travaillé avec la ville pour que les enfants décrocheurs soient bien sûr contactés en priorité et scolarisés à temps complet. Nous avons mis en place un accueil périscolaire, notamment pour des classes dédoublées, hein, pour que les enfants puissent être accueillis autour d'activités sportives et culturelles quand la classe était dédoublée et qu'ils n'étaient pas en classe avec leurs professeurs. Et nous préparons des vacances apprenantes, c'est-à-dire qu'à côté des centres de loisirs classiques, il y aura des centres d'accompagnement éducatif qui vont proposer le matin des cours, des aides au devoir, avec bien sûr un partenariat éducation nationale, et l'après-midi des activités d'éveil culturel et sportif.
Laurent Hénard, le second tour a lieu le 28 juin. Vous vous êtes engagé dans le cadre de cette campagne électorale à faire le tram à Nancy en 2023 et sans augmentation d'impôts. Pourquoi est-ce vital pour les habitants de Nancy ? Quel sera le parcours de ce tram et comment être sûr que le délai que vous annoncez sera respecté ?
Alors, d'abord, sur le projet, c'était un projet qui était nécessaire avant la crise du Covid-19, parce que notre actuel tram sur pneus est saturé. Voilà, à l'heure de pointe, tout le monde ne peut pas monter dans les rames. Donc, on a besoin d'avoir un mode de transport en commun plus puissant, pouvant véhiculer plus de passagers. On passerait d'un tram sur pneus qui accueille 140 passagers dans une rame à un tram sur rail qui en accueille plus de 300. Et puis le Covid-19 a montré que les transports en commun devaient être spacieux, confortables. On voit bien que une des peurs qu'ont nos concitoyens avec le transport en commun, c'est d'être un peu, pardonnez-moi l'expression, serré comme des sardines. Donc l'idée d'avoir un transport en commun moderne, confortable et plus spacieux est une idée qui répond aussi aux attentes de l'après-Covid. Simplement, ce que j'ai dit, c'est que pour moi, le chantier devait être différé de 1 à 2 ans pour permettre en fait aux entreprises et aux commerces de reprendre du poil de la bête. Hein, je rappelle que le chantier il était prévu pour le printemps 2021. Et moi, je ne me vois pas comme maire faire 15 km de chantier dans toute la ville de Nancy et dans toute la métropole alors qu'on voit bien, l'activité reprend seulement, le monde économique est fragile, le monde du commerce est fragile, et qu'ils ont besoin de pouvoir reprendre complètement leur activité avant d'avoir de nouvelles perturbations. Donc l'idée est de décaler le chantier, pourquoi pas en 2023, mais de réaliser ce tram une fois que l'économie aura repris, je l'espère, un rythme de vie régulier.
Laurent Hénard, vous avez consulté la population sur les questions écologiques. Vous voulez à nouveau la consulter sur les tarifs des transports en commun, des transports qui seront gratuits lors des pics de pollution. La pollution, c'est un sujet de préoccupation majeure à Nancy ?
Alors, non, nous avons la chance que la ville de Nancy n'est pas aujourd'hui concernée par des journées et des journées de pics de pollution. Justement, on veut empêcher ça. Donc, le développement du transport en commun, le développement du réseau cyclable, on ajoute 15 km de pistes cyclables, a pour but, bien sûr, de prévenir la pollution de l'air, tout comme le développement du plateau piéton, qui donnera lieu à une consultation des habitants et à une votation des habitants pour retenir un scénario de piétonnisation de la ville qui aura été avant étudié avec les habitants et les commerçants. On aura aussi, je le crois sincèrement, un développement du véhicule propre individuel. On a d'ailleurs mis en œuvre à Nancy la vignette critère qui va nous permettre de favoriser et de soutenir l'utilisation de véhicules électriques ou de voitures propres avec par exemple du stationnement moins cher, avec l'installation qui est déjà commencée de bornes de recharge électrique dans tous les parking public de la ville et le rechargement sera gratuit pour les automobiles qui seront des automobiles vertes d'une certaine manière. Alors vous avez raison, c'est un mouvement qui est enclenché en tout cas à Nancy. Maintenant depuis plus de 2 ans, hein, on a lancé cette démarche de transition écologique avec l'Université de Lorraine et avec une cinquantaine d'entreprises volontaires, beaucoup de citoyens, beaucoup d'associations en 2018. Et donc on déroule des objectifs pour Nancy en 2030 avec des programmes d'action très concrets. Là on est sur le programme d'action 2019-2020-2021 et on évalue bien sûr tous les 3 ans la démarche et éventuellement on l'a fait s'adapter aux besoins du temps. On voit bien combien les sujets de santé par exemple vont être beaucoup plus importants que le passé et je pense que c'est un atout de plus pour la transition écologique que ce souci de santé publique et de prévention.
Laurent Hénard, le Sénat étudie actuellement une proposition de loi pour lutter davantage contre les violences conjugales. Quels sont les dispositifs qu'on peut améliorer à Nancy pour aider les femmes qui sont victimes de ces violences ?
Alors, nous avons une très bonne coopération, d'abord, je tiens à le dire, avec les services sociaux de l'État, la police, le parquet, pour, dès qu'il y a un signalement, pouvoir protéger la femme victime de violence. On a notamment toujours disponible pour la réquisition un hôtel et on a en plus un foyer qui est un foyer dont une partie des chambres permet d'accueillir des femmes ou des mères victimes de violences conjugales et familiales. Donc on a un dispositif qui est déjà opérationnel et qui peut être renforcé, notamment sur l'écoute, pour essayer de prévenir les choses, l'écoute, la détection. Souvent, hélas, il faut un drame hein, pour se rendre compte des violences perpétrées. C'est quelque part quand même bien dommage et ce serait assez logique de se dire qu'on doit pouvoir détecter les difficultés avant que les violences les plus dures n'arrivent. Donc là, on travaille notamment avec les psychiatres et les psychologues pour voir comment on peut doter l'agglomération d'un bon réseau d'écoute, de détection et de prise en charge le plus tôt possible. Et puis nous travaillons avec Dominique Sigaud, qui est journaliste, essayiste, qui a publié d'ailleurs un livre très émouvant sur les violences faites aux filles. On travaille avec elle sur l'idée d'une politique exemplaire sur ces violences faites aux filles, avec d'abord bien sûr une capacité d'observatoire local, pilotée par tous les professionnels concernés, mais aussi un plan de sensibilisation à travers les écoles, les réseaux associatifs qui permettent aussi bien sûr la détection. Et puis un programme ensuite bien sûr de soutien, d'accueil et de suivi de ces filles victimes de violences.
Laurent Hénard, que ferez-vous pour simplifier aussi la vie des personnes en situation de handicap ? Je pense à l'accessibilité des bâtiments publics, mais aussi à l'accès à l'école pour tous.
Alors nous avons un ADAP, hein, vous savez, un plan d'aménagement et d'adaptation de l'ensemble des locaux publics, qui chaque année comporte un volume important d'investissement pour mettre aux normes les différents équipements publics de la ville. On a d'ailleurs reçu, par exemple, un prix musée handicap, hein, pour les aménagements réalisés dans le musée des Beaux-Arts, pour tous les handicaps d'ailleurs, pas seulement les handicaps moteurs, mais aussi les handicaps sensoriels. On travaille aussi, bien sûr, sur les handicaps psychiques. Donc là, l'idée, c'est d'aller le plus loin possible dans l'accueil dans les écoles des enfants handicapés. Il y a un partenariat très serré avec l'éducation nationale qui s'est fait. Notamment, la mairie participe au cofinancement de postes d'adultes professionnels, hein, d'AESH, qui viennent soutenir la scolarisation et accompagner la scolarisation des enfants. Il y a le sujet, bien sûr, des déplacements. Nous avons un groupement spécialisé de transport pour les personnes handicapées, et des chantiers comme le tram sont évidemment des chantiers qui s'adressent prioritairement aux personnes handicapées pour leur favoriser l'accessibilité des transports publics. Nous avons une ambition très forte sur le logement. On souhaite que dans les 10 000 logements qui vont être rénovés ou construits à Nancy dans les 5 ans qui viennent, 1 000 au moins, soient des logements adaptés et adaptables. Et donc s'adressant aux personnes handicapées ou alors aux personnes très âgées, qui connaissent des pertes d'autonomie et pour lesquelles il faut aménager le domicile. Donc on souhaite travailler en fait sur toute la chaîne, le logement, les déplacements, mais aussi bien sûr la vie sociale, culturelle, sportive. On a un office municipal des sports, et j'en terminerai par là, qui tous les ans met en avant de belles initiatives de handisport. Il y a des soutiens spécifiques de la ville pour ces associations et clubs handisport, en fonctionnement comme en investissement pour les aider à s'équiper. Et c'est un élément fondamental aussi d'ailleurs de la santé des personnes handicapées, pas seulement de leur vie sociale.
De nombreux Français ne partiront pas à l'étranger cet été, ils préparent leurs vacances. Vous souhaitez attirer davantage de touristes dans les semaines qui viennent à Nancy ?
Oui, nous souhaitons évidemment reprendre le développement touristique de la ville. Hein. Nous avons des atouts. Nous sommes patrimoine mondial de l'humanité classé à l'UNESCO pour la place Stanislas et l'ensemble 18e. Nous sommes une des grandes villes européennes de l'art nouveau, la ville française de l'art nouveau, comme Barcelone peut l'être en Espagne ou Bruxelles en Belgique. Nous avons dans la ville vieille, autour du palais des Ducs de Lorraine, un magnifique ensemble. Nancy a été la capitale de la Lorraine pendant 700 ans, où c'était un duché indépendant. Et nous avons des grands noms du XXe siècle, comme Jean Prouvé, qui permettent de découvrir du patrimoine contemporain dans Nancy. Donc des atouts à faire valoir, les Vosges pas loin, ça veut dire que la nature lorraine est belle et généreuse autour de Nancy. Et donc nous reprenons effectivement une politique de conquête touristique, réouverture des musées. Nous voulons avoir une programmation d'été qui donne envie de venir flâner à Nancy. Nous avons installé des grandes terrasses, nous avons ouvert des terrasses exceptionnelles dans des lieux qui n'en avaient pas, des brasseries éphémères dans des parcs publics, sur des places, qui seront l'occasion bien sûr d'avoir des animations culturelles, festives, sportives, qui puissent donner une douceur de vivre à Nancy, mais aussi une vitalité pour ceux qui viendraient y passer quelques jours, intéressés par nos expositions, par notre patrimoine ou par notre programmation culturelle.
Pour terminer, rapidement, qu'est-ce que vous avez appris sur votre ville durant ce mandat de maire et pourquoi souhaitez-vous ce deuxième mandat ?
Moi, ce que j'ai appris, c'est que les forces des Nancéennes et des Nancéens sont encore plus importantes que ce que je pensais. J'ai toujours pensé que la ressource humaine était la première richesse de Nancy. Nos universitaires, nos entrepreneurs, nos chercheurs, nos artistes, c'est une ville culturelle, dans l'âme, les enseignants et les responsables associatifs, le nombre très important de commerçants, d'artisans d'art, de métiers d'art. Mais tout cela est, je dirais, encore plus fort que ce que je pensais, parce que dans la crise, moi j'ai vu des Nancéens qui étaient solidaires, beaucoup de solidarité que je veux protéger, préserver, faire fructifier, des solidarités simples, hein, du voisinage et du quotidien. J'ai vu des Nancéens qui ont respecté dans une immense majorité les règles du confinement pour que nous puissions, alors que nous étions dans le Grand Est, département rouge, dans une région rouge, devenir un département vert et retrouver nos libertés. Et et je crois que cette capacité de résistance des Nancéennes et des Nancéens, elle va nous permettre d'affronter les crises qui se profilent. Parce que derrière la crise sanitaire, qui n'est pas finie, et que nous devons continuer bien sûr à affronter, on voit arriver la crise économique et sociale, l'effondrement de l'économie et la montée massive du chômage. Donc premier front sur lequel je veux qu'on résiste avec les Nancéens, c'est ce front de l'emploi, sauvegarder les emplois qui existent, créer de nouveaux emplois, avoir une vision conquérante de l'avenir. Et puis, la crise écologique va évidemment de nouveau se rappeler à nous. Dès cet été, on attend des températures très élevées. On va voir que le problème écologique est toujours là, bien sûr. Et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur la transition écologique, mais moi, ce que je veux, c'est une écologie positive à Nancy. Je ne veux pas multiplier les interdictions, les arrêtés, les taxes. Je veux faire en sorte que l'écologie, pour les Nancéens, ce soit l'occasion de prendre des initiatives, ce soit l'occasion d'avoir des projets, ce soit l'occasion de créer du sens, de la valeur, de l'activité, de l'emploi.
Merci Laurent Hénard. Je rappelle que vous êtes maire de Nancy et candidat au second tour des municipales comme chef de file de la liste Nancy Positive. L'autre candidat sera Mathieu Klein, chef de file de la liste Nancy en grand. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.